Voltaire, dictionnaire philosophique, langue, harmonie des langues. J'ai connu plus d'un Anglais et plus d'un Allemand qui ne trouvaient d'harmonie que dans leur langue. La langue russe, qui est la slavone mêlée de plusieurs mots grecs et de quelques-uns tartares, paraît mélodieuse aux oreilles russes. Cependant, un Allemand, un Anglais, qui aura de l'oreille et du goût, sera plus content d'Ouranos que de Heaven et de Kimmel, d'Andropos que de Mann, de Théos que de God ou Kot, d'Aristos que de Good. Les dactyles et les spondées flatteront plus son oreille que les syllabes uniformes et peu senties de toutes les autres langages. Toutefois, j'ai connu de grands scoliastes qui se plaignaient violemment d'Horace. « Comment, disent-ils, ces gens-là qui passent pour les modèles de la mélodie, non seulement font heurter continuellement des voyelles les unes contre les autres, ce qui nous est expressément défendu, non seulement ils nous allongent ou vous raccourcissent un mot à la façon grecque selon leurs besoins, mais ils vous coupent hardiment un mot en deux. Ils en mettent une moitié à la fin d'un vers et l'autre moitié au commencement du vers suivant. Reditum quiri solio fraten, dissidens plebi numero beabbo, rum eximit virtus, etc. Horace, Liber Deo. C'est comme nous écrivions dans une ode en français, défions-nous de la fortu, d'un et n'en croyons que la vertu. Horace ne bornait pas ses petites libertés. Il met à la fin de son vers la première lettre du mot qui commence le vers qui suit. Ce dieu du Tibre est, mais beaucoup de sa femme. Que dirions-nous de ces vers harmonieux? Septime qu'avec moi je mène à Cadix et qui verrait le calandre ignorant du jour et. Horace en a 50 de cette forme, et Pindare en est tout rempli. Tout est noble dans Horace, dit Dacier dans sa préface. N'aurait-il pas mieux fait de dire tantôt Horace a de la noblesse, tantôt de la délicatesse et de l'enjouement, etc. Le malheur des commentateurs de toute espèce est, ce me semble, de n'avoir jamais d'idée précise et de prononcer de grands mots qui ne signifient rien. Monsieur et Madame Dacier étaient fort sujets, avec tout leur mérite. Je ne vois pas quelle noblesse, quelle grandeur peut nous frapper dans ces ordres qu'Horace donne à son laquais, envers qualifié du nom d'ode. Je me sers à quelques mots près de la traduction même de Dacier. Laquais, je ne suis point pour la magnificence des Perses. Je puis souffrir les couronnes pliées avec des bandelettes de tilleul. Cesse donc de t'informer où tu pourras trouver des roses tardives. Je ne veux que du simple myrte, sans autre façon. Le myrte sied bien à un laquais comme toi, et à moi qui bois sous une petite treille. Ces vers, contre de pauvres vieilles et contre des sorcières, me semblent encore moins nobles que l'ode à son laquais. Mais revenons à ce qui dépend uniquement de la langue. Il paraît évident que les Romains et les Grecs se donnaient des libertés qui seraient chez nous des licences intolérables. Pourquoi voyons-nous tant de moitiés de mots à la fin des vers dans les hommes d'Horace, et pas un exemple de cette licence dans Virgile? N'est-ce point parce que les odes étaient faites pour être chantées, et que la musique faisait disparaître ce défaut? Ben, il faut bien que cela soit, puisqu'on voit dans Pindare tant de mots coupés en deux d'un vers à l'autre, et qu'on n'en voit pas dans Homère. Mais, me dira-t-on, les rhapsodes chantaient les vers d'Homère. On chantait des morceaux de l'Énéide à Rome comme on chante des stances de l'Arioste et du Tasse en Italie. Il est clair, par exemple, du Tasse, que ce ne fut pas un chant proprement dit, mais une déclamation soudaine, à peu près comme quelques morceaux assez mélodieux du chant grégorien. Les Grecs prenaient d'autres libertés qui nous sont rigoureusement interdites. Par exemple, de répéter souvent dans la même page des épithètes, des moitiés de vers, des vers même tout entiers. Et cela prouve qu'ils ne s'enseignaient pas à la même correction que nous. Le podas ocus achilles, l'olympia disparata econtes, l'ecbolona riumolona, etc. frappe agréablement l'oreille. Mais si dans nos langues modernes nous faisions rimer si souvent Achille aux pieds légers, les flèches d'Apollon, les demeures célestes, nous ne serions pas tolérés. Si nous faisions répéter par un personnage les mêmes paroles qu'un autre personnage lui a dites, ce double emploi serait plus insupportable encore. Si le Tasse s'était servi tantôt du dialecte bergamasque, tantôt du patois du Piémont, tantôt de celui de Gênes, il n'aurait été lu de personne. Les Grecs avaient donc pour leur poésie des facilités qu'aucune nation ne s'est permise. Et de tous les peuples, le français, celui qui s'est asservi à la gêne la plus rigoureuse.